Chapitre 10, le choc. Deux jours plus tard, le téléphone sonne chez la famille Plouffe, à Montréal. On appelle Claire. C'est Gilles Lafont qui téléphone de Paris avec des nouvelles. Il admet qu'il a eu tort.
Allô ?
Mademoiselle Plouffe ? C'est Gilles Lafont. J'ai des nouvelles pour vous.
De bonnes ou de mauvaises ?
Ça dépend. Enfin, d'abord, je dois vous avouer mon erreur. Le scénario que j'avais imaginé était faux. Il m'a fallu plusieurs semaines pour découvrir toute la vérité.
Alors le manuscrit que j'ai lu n'était pas contrefait ?
Non. Sur ce point, j'avais raison. C'était de la contrefaçon. Mais ce n'était pas votre ami Jean-Louis Royer qui était le cerveau de cette affaire. C'était son patron, Jules Raphaël Roland. Depuis plusieurs années, Roland paie des gens pour produire de faux manuscrits anciens. Puis, il les place chez des bouquinistes, comme chez le pauvre Nicolas Gustave, sans qu'il n'en sache rien. Ensuite, il ébruite des informations sur le texte dans le milieu académique. Puis, Roland fait acheter le texte par un de ses employés, à un prix très bas, bien sûr, et quand le professeur choisi vient alors le chercher, l'employé le lui montre pour que le texte soit établi comme une trouvaille authentique. Après, Roland n'a plus qu'à vendre le texte au plus offrant. C'est ainsi qu'il a fait fortune, et personne n'a jamais rien soupçonné. Pourtant, cette fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu, car Nicolas Gustave, sans le savoir, a vendu le faux manuscrit en question à M. Thibaudeau, un vrai amateur de livres anciens.
Ce n'est pas vrai. Alors, Roland a tué Nicolas Gustave ?
Oui. Il avait peur que Nicolas ne devine quelque chose de son jeu.
Quel cauchemar ! C'est affreux ! Et Jean-Louis, que savait-il de tout cela ?
Quand la police a arrêté Jean-Louis à Paris avec le manuscrit, il ne savait rien des livres contrefaits ou du meurtre de Gustave.
Alors, il est innocent ?
Plus ou moins. Enfin, il travaillait pour Roland. Et il est arrêté avec un faux manuscrit. Mais ne vous inquiétez pas. Il a coopéré avec les inspecteurs et je pense qu'il sera libéré après le procès.
Donc tout ce qu'il m'a dit de son désir de m'aider avec mon projet de recherche, il l'a dit de bon cœur ? Mais encore, pourquoi est-il allé à la Nouvelle-Orléans au mois d'août s'il ne savait rien du manuscrit ? Notre rencontre était-elle une vraie coïncidence ?
Non, pas du tout. Jean-Louis était la dupe de M. Roland, tout comme vous. Vous étiez la dupe de son partenaire.
De quel partenaire ? De qui parlez-vous ?
Le contrefacteur qui a produit le manuscrit, c'était votre directeur de thèse, le professeur Tuillier. C'est lui qui a choisi d'inventer un deuxième roman de Laclos, suite à cette rumeur selon laquelle une famille louisianaise avait possédé un manuscrit inédit de Laclos. Ce qui n'était qu'une rumeur, d'ailleurs.
Je suis abasourdi. Je n'arrive pas à le croire. Tuillier est un criminel ? Mais c'est un professeur si accompli et si intelligent.
Hélas, c'est malheureusement la vérité. C'est Tuillier qui a fabriqué le texte et qui l'a mis dans la collection de Nicolas Gustave. Il savait bien que les Fontenot avaient vendu leur bibliothèque à son oncle. C'est Tuillier qui vous a suggéré ce projet comme sujet de thèse et qui vous a montré l'article sur le manuscrit perdu. C'est Tuillier encore qui a averti Roland que vous commenciez vos recherches à la Nouvelle-Orléans. Roland a envoyé Royer pour vous suivre jusqu'à votre découverte du texte chez le bouquiniste à Paris. Tuillier et Roland collaboraient ensemble depuis au moins 5 ans pour organiser cette affaire.
Tout s'explique maintenant. Voilà pourquoi Tuillier m'a dit de continuer avec mon projet, même après avoir trouvé l'anachronisme. Ça, c'était une grande erreur de sa part. Que va-t-il devenir ? Que va-t-il se passer ?
Il vient d'être arrêté à l'aéroport de Bruxelles. Bien sûr, il aura son procès, mais j'imagine que sa carrière est ruinée. Il vous faudra trouver un nouveau directeur de thèse. Mon article est dans la dernière édition du journal, ici à Paris, et je suis sûr qu'il y aura bientôt des reportages à ce sujet dans les journaux québécois. J'ai évité de mentionner votre nom dans mon article, et je crois que Jean-Louis, lui aussi, a essayé de protéger votre anonymat.
Alors, vous êtes certain que Jean-Louis ne savait rien de toute cette histoire ?
J'en suis persuadé, mais comme vous le savez, on n'est jamais sûr de rien.